Bonjour à tous et à toutes. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur pour nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Ces paroles sont celles de l'apôtre Paul adressées aux frères de l'église de Thessalonique. Complétez ce qui manque à votre foi. Par ces paroles, Paul souhaite instruire pleinement les frères de l'Église dans leur connaissance de la vérité. En Romains 10, au verset 17, il nous est dit « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Paul savait combien il était important que les croyants en Christ grandissent dans la connaissance de la vérité. Nous pouvons nous réjouir dans nos vies des victoires que Dieu a accomplies. Nous pouvons rendre grâce continuellement à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons encore besoin de marcher de progrès en progrès. Nous devons donc regarder là où Dieu souhaite encore remporter des victoires dans nos vies. Complétez ce qui manque à votre foi. Alors je vous invite à lire ce matin un passage qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous lirons au chapitre 3, du verset 9 à 13. Et nous aurons l'occasion de parcourir un petit peu aussi d'autres chapitres de cette lettre. 1 Thessaloniciens 3, verset 9 à 13. Et Paul dit « Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Le passage que nous venons de lire se trouve dans la première lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Paul écrit cette lettre, probablement de Corinthe, aux alentours de 51-52 après Jésus-Christ, avec ses collaborateurs que sont Silas et Timothée. Thessalonique, ville portuaire du deuxième district de Macédoine sur la mer Égée, appelée aujourd'hui Salonique, a été visité par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Et lors de ce deuxième voyage missionnaire qui devait le mener jusqu'à Corinthe, Paul et son compagnon d'œuvre, Silas, s'arrêtent à Amphipolis et Apollonie, puis arrivent jusqu'à Thessalonique et annoncent le Christ. Paul et Silas durent partir précipitamment de cette ville à cause de la colère des Juifs. Mais il nous est dit en Actes 17, verset 4, que quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Paul alors avait toujours cet ardent désir de revoir ceux qui avaient reçu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceux qui, au milieu de la violence témoignée par ceux qui s'opposaient, étaient restés attachés à la foi en Jésus-Christ. Peut-être à cause de la persécution et le peu de temps où il est resté, Paul voulait revoir les chrétiens de cette ville. Il voulait les aider à résister dans leur foi. Et n'ayant pu se rendre personnellement à Thessalonique, il envoie un de ses compagnons d'œuvre, un de ses disciples, Timothée. Et toujours au chapitre 3, quelques versets avant notre passage, Paul dit nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Après cette mission, Timothée revient auprès de Paul et de Silas. Et au verset 6 et 7, Timothée donne de bonnes nouvelles de la part de l'Église. Paul dit, « Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons nous aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes ces calamités et de toutes nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » Paul reçoit de bonnes nouvelles des frères de l'église de Thessalonique. Et il envoie cette première lettre à l'église pour leur témoigner de sa profonde joie de savoir qu'ils ont tenu ferme dans la foi. Et dès les premiers versets de cette lettre, Paul dit, Paul témoigne, Paul reconnaît, il dit, au verset 2 et 3, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans toutes nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu le Père. » Paul reconnaît, avec une ardeur qui le caractérise, la foi des Thessaloniciens. Et il encourage aussi les frères en leur révélant qu'ils sont devenus même des exemples pour les autres chrétiens des autres églises au travers des épreuves. Il dit, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. La foi des Thessaloniciens était reconnue et leur fidélité au Seigneur a dépassé les frontières de l'Église, les frontières de Macédoine pour aller jusqu'en Achaïe. » Alors devant ces déclarations de joie de Paul qu'il témoigne ici dans cette lettre, on pourrait penser que Paul en fait trop. Mais il faut bien remettre ce qui est dit ici dans le contexte de l'époque. Rappelez-vous, Paul a dû faire face à une opposition forte dans cette ville et dû partir précipitamment lors de son voyage missionnaire. Les frères ont dû faire face à la persécution. Paul n'a pas pu venir les voir aussi parce qu'il était lui-même dans l'épreuve. Paul était donc profondément dans la crainte, comme il le dit, pour les frères de l'Église. Et apprendre qu'ils ont tenu ferme était pour lui un grand sujet de réconfort. Alors nous pouvons comprendre ses paroles lorsqu'il dit « En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, et nos tribulations, nous vous avons été consolés à cause de vous, à cause de votre foi. Car maintenant, nous nous sentons revivre, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Paul est tellement joyeux qu'il dit « Nous nous sentons revivre, parce que nous savons que vous tenez ferme dans le Seigneur. » Paul avait cette profonde affection, cet amour de Dieu pour les frères, qu'il parle d'ailleurs souvent dans ses lettres. Et il nous montre ici combien leur santé spirituelle tenait une place primordiale dans son ministère. D'autres apôtres, d'ailleurs, comme l'apôtre Jean, témoignent de cette joie de voir les frères des églises persévérer dans la vérité. Jean dit dans sa troisième lettre, d'ailleurs, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Les apôtres avaient ce souci de voir que leurs enfants marchaient dans la vérité. C'était un souci constant dans leur ministère. Paul en vient à dire au verset 9 de notre passage, « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toutes les joies que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu ?» Paul se réjouit. Il remercie Dieu dans ses prières pour la foi manifeste des frères de l'Église. Mais Paul n'en reste pas là. Si Paul, pendant tout le début de cette lettre, témoigne de la foi des frères de l'Église, il ne ferme pas la porte au progrès à faire dans leur marche avec le Seigneur. Paul sait qu'une Église, aussi ferme dans la foi soit-elle, ne doit pas s'enorgueillir. Mais au contraire, elle doit grandir dans ce qui lui manque encore. Et la foi et la fidélité de l'Église de Thessalonique, même étant un modèle pour les autres, ne doit pas masquer les progrès qu'elle doit faire encore dans la foi. Paul sait que les frères ont encore besoin de grandir dans la connaissance de la vérité. Et il dit au verset 10, « Nuit et jour, nous prions le Seigneur avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Lors de son voyage missionnaire, on l'a vu, Paul n'avait pas pu rester longtemps auprès des Thessaloniciens. Et il n'avait certainement pas pu apporter un enseignement aussi profond qu'il aurait voulu. Et à plusieurs reprises, il a souhaité venir les revoir, disant lui-même, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Paul aurait eu l'occasion d'enseigner, d'exhorter, d'encourager les chrétiens dans ce qui leur manquait peut-être dans leur foi, et ainsi la compléter. Cette lettre ici, c'est non seulement l'occasion de les encourager, de les fortifier, mais aussi l'occasion de montrer cette nécessité de compléter leur foi. Et au travers d'une prière que Paul va faire, il témoigne de cette nécessité pour les Thessaloniciens. Paul dit « Je prie jour et nuit » avec une ardeur pour que le Seigneur lui-même permette de venir vous voir. C'est un souci constant dans le ministère de Paul et qui en montre ici toute l'importance. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Paul prie, avec une ardeur constante, nuit et jour, pour que le Seigneur puisse lui permettre de venir voir les Thessaloniciens et compléter leur connaissance. Paul demande au Seigneur qu'il lui ouvre une porte pour qu'il puisse venir enseigner et compléter la foi des Thessaloniciens. Compléter leur foi est un enjeu de taille pour chaque chrétien. Paul a écrit aux frères pendant tout le début de cette lettre, les deux premiers chapitres, jusqu'au début du chapitre 3, toute sa joie, toute sa reconnaissance pour la foi des Thessaloniciens. Mais il n'en oublie pas un aspect primordial dans leur vie chrétienne, qui est de marcher de progrès en progrès. Une des choses que Paul demande dans sa prière, et qui va dans ce sens, c'est que Dieu fasse croître et abonder l'amour des frères les uns pour les autres. Que le Seigneur, dit-il, augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. C'est un point essentiel. Paul sait l'amour que témoignaient les Thessaloniciens auprès des frères, mais il souhaite encore qu'ils aillent de l'avant en ce sens. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples en Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, et vous le connaissez. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le Seigneur Jésus dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce commandement nouveau n'est pas facultatif. Il est essentiel dans la vie chrétienne. une des caractéristiques du disciple, c'est l'amour. L'amour qu'ils portent les uns pour les autres. C'est un commandement de Jésus. Alors Paul, comme je l'ai dit, connaît l'amour des Thessaloniciens. Il connaît leur engagement concret dans l'amour fraternel, au travers de leur action, notamment auprès des frères de Thessalonique et de toute la contrée de Macédoine. Et il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers les frères dans la Macédoine entière. Paul savait et reconnaissait l'amour des Thessaloniciens. Mais cela n'empêche pas qu'ils ont besoin de grandir et d'abonder dans cet amour. Qui peut dire qu'il aime assez ? Qui peut dire qu'il est en train de croître dans l'amour? Qui peut dire ici ou ailleurs, j'abonde en amour selon le Seigneur? S'il y a quelque chose dans lequel nous aurons toujours besoin de grandir dans nos vies, c'est bien l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu à l'image de Christ. Les frères aiment. Les frères savent aimer. Les frères l'ont témoigné concrètement auprès des autres églises. Mais les frères ne doivent pas s'endormir. Ils doivent encore croître dans cet amour. Et Paul en profite dans son enseignement qui suit pour mettre le doigt sur certaines choses qui peut-être ne vont pas dans l'Église ou qui doivent cesser. Il dit au chapitre 4, de versets 10 à 12, « Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Et il dit aussi « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. » À vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Paul encourage l'Église à aller de l'avant. On peut connaître l'amour, on peut vivre l'amour les uns pour les autres et laisser des choses dans notre vie faire obstacle à cet amour. Si nous laissons des choses faire obstacle dans nos relations, comment alors croître à plus forte raison, abonder dans l'amour? Grandir dans l'amour de Dieu, c'est laisser Dieu agir dans notre propre vie et abandonner certaines choses qui peuvent faire obstacle à cet amour, et notamment ici à l'amour fraternel. L'Église tient ferme dans la foi, mais ils ont encore besoin de grandir dans la connaissance de la vérité et dans l'amour. Et Paul ne s'arrête pas là. Paul nous dit dans sa prière qu'il demande à Dieu qu'il affermisse leur cœur afin qu'ils soient purs et irréprochables lors du retour du Seigneur. Qu'il affermisse leur cœur. Affermir, c'est rendre solide, c'est rendre stable, à l'inverse d'affaiblir ou d'ébranler. Ce que Paul souhaite, ce sont des frères solides, des frères fermes, des frères stables dans la foi. Et il dit que vos cœurs soient irréprochables dans la sainteté. Paul exhorte les frères à tendre vers la sanctification. C'est encore des paroles qui sont une constance dans l'enseignement de Paul et des apôtres d'ailleurs. Pierre dit sur sa deuxième lettre, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables. La sanctification, comme l'amour, n'est pas quelque chose de facultatif dans la marche du disciple de Christ. L'apôtre Paul, d'ailleurs, le précise dans le chapitre 4, verset 3, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Elle est au centre de la volonté de Dieu pour nos vies. » La sanctification, c'est la traduction du mot grec « agiasmos » qui signifie « consécration ». Et le début du mot « agios » signifie « saint ». Et d'un sens général, on dit que la sanctification, c'est être mis à part, consacré pour Dieu. La sanctification, c'est donc un processus de purification morale de l'homme en se séparant du péché et en se consacrant pour Dieu. On peut dire que la sanctification, à mon sens, c'est reconnaître la volonté de Dieu, distinguer ce qui est bon et juste de ce qui est mauvais et se séparer du péché en se laissant transformer pour être à l'image de Christ. On tend ainsi vers la sainteté. Si la sainteté est l'état à revêtir, la sanctification en est le moyen, le process pour l'atteindre. Et quel motif doit nous pousser à la sanctification ? Mais Paul le dit. Il le dit ici dans sa lettre, et il le dit aussi lorsqu'il termine cette lettre. Afin que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru. Ce sont les paroles de Paul aussi dans sa deuxième lettre aux frères de l'Église. C'est pour cela que nous devons rechercher la sanctification. Et on comprend aisément que tendre vers la sanctification, rechercher la sainteté, c'est laisser, a fortiori, Dieu agir dans nos vies et mettre de côté ce qui peut empêcher notre marche avec lui. Et au chapitre 4, Paul développe cette nécessaire séparation d'avec le mal en encourageant les Thessaloniciens, à marcher de progrès en progrès. Je voudrais vous lire ces 8 versets que Paul dit dans son enseignement. Ce sont les versets qui suivent notre passage. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Paul dit aux frères, « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Paul encourage l'Église à progresser dans la sainteté. Il encourage l'Église à se séparer aussi de ce qui n'est pas digne de Dieu dans leur vie. Paul sait très bien que se faufilent dans les cœurs et dans les églises même des pratiques qui ne reflètent pas la volonté de Dieu et la sainteté à laquelle nous sommes appelés, à laquelle les frères de l'Église sont appelés. Et Paul veut que les frères considèrent cela dans leur marche avec le Seigneur. Paul encourage les frères de l'Église de Thessalonique à grandir dans la sanctification et donc à faire disparaître de leur vie tout ce qui peut empêcher d'y parvenir et de progresser. Encore une fois, comme pour l'amour, nous voyons que grandir dans la sainteté implique forcément d'abandonner certaines choses dans notre vie qui s'y opposent. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. Au printemps dernier, à côté de notre maison, s'est mis à pousser une magnifique plante. Une plante, on ne savait pas d'où elle sortait, mais exceptionnelle. Elle avait une tige en forme de bambou, et elle avait des feuilles comme un palmier, mais en forme de feuille. Je ne peux pas la décrire mieux. Et en 2 mois, elle est partie de 2 cm à 1,80 m. En 2 mois. Et elle poussait contre le mur de notre maison. Alors au début, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est une mauvaise herbe, je l'enlèverai à l'occasion. Puis, comme elle poussait de plus en plus et qu'elle était de plus en plus belle, je l'ai laissée pousser. Je me suis dit, pourquoi pas la laisser pousser, elle est tellement belle. Je ne pouvais pas me résigner à l'enlever. Elle était magnifique. Et un jour, mon voisin vient un samedi matin, lorsque ma femme et moi, on était en train de jardiner, justement à côté de cette plante, et il vient nous dire bonjour. Et il nous dit bonjour, et tout à coup, je le vois qui saisit la tige de ma plante, il la remue dans tous les sens, il tire, il sort son sécateur et il la coupe. Instantanément, et il me donne la plante. Ah, je me suis senti un peu hébété pendant 3 secondes, Et puis il me dit, cette plante est dangereuse. Tu dois immédiatement la couper. Tu ne devais même pas la laisser grandir. Elle est extrêmement dangereuse. Cette plante a des racines qui font jusqu'à 50 mètres. Elle passe sous les canalisations, elle fait éclater les canalisations des maisons, elle ressort comme elle est à ras de terre sous les terrasses, elle éclate les dalles des terrasses, et elle s'attaque même aux fondations de la maison. Et quand il l'a coupée, je me suis aperçu qu'un morceau de la tige allait justement entre le mur et la chenot de ma maison, était en train de pousser la chenot de ma maison, ce que je n'avais pas vu. Pourtant, elle était magnifique. Mais vous voyez où je veux en venir. Dans notre vie, on peut laisser pousser dans notre cœur, dans notre esprit, des choses qui, au départ, semblent être anodines. Et on les laisse là, grandir, s'épanouir dans notre vie. Et un jour, ces choses-là peuvent devenir un vrai obstacle à notre vie. Et le Seigneur Jésus, il vient, comme mon voisin, il vient pour nous dire, ça, c'est mauvais pour toi. Tu dois t'en débarrasser maintenant. Tu ne dois plus attendre. Ça peut faire dans ta vie des dégâts énormes. Ça peut être un obstacle dans ta marche vers moi. Ça peut être un obstacle dans ton amour pour moi. Ça peut être un obstacle dans ta vie de sainteté pour moi. Ça peut être un obstacle pour compléter ta connaissance de moi. Et il nous invite à couper cette plante. Et bien évidemment, si nous lui demandons, le Seigneur est tout-puissant pour l'enlever, pour la déraciner jusqu'à la plus petite racine. Alors dans cette lettre, Paul ne se contente pas simplement de mettre en avant la foi des chrétiens de l'Église, vous l'avez compris. Il les exhorte aussi, au travers de sa prière, à compléter ce qui manque à leur foi. Il les amène à considérer là où ils doivent grandir encore et ce qu'ils doivent aussi abandonner pour cela. Compléter ce qui manque à notre foi, c'est grandir dans la connaissance de Christ, toujours plus. Dans notre vie quotidienne, on tend toujours à quelque chose de plus, une plus belle maison, un plus beau travail, plus d'argent, plus de tout. Est-ce que dans notre vie chrétienne, on tend à mieux connaître Christ, à plus le connaître, à le connaître davantage, à mettre nos délices dans sa parole, à faire de ses bénédictions les délices de notre vie. Pour cela, nous devons aussi accepter beaucoup de choses dans notre vie. Accepter d'abandonner certaines choses qui font obstacle. Alors ce passage, vous le voyez, apporte un enseignement à la fois puissant pour les chrétiens de cette Église, mais aussi pour nous aujourd'hui. Compléter ce qui manque à notre foi. Il faut remercier Dieu pour les dons qu'il nous accorde, pour les délivrances qu'il nous apporte, pour les bénédictions, pour les joies, pour les victoires. Cela est bien évidemment essentiel à notre vie chrétienne. Mais nous devons aussi considérer là où nous avons besoin de grandir, là où Dieu a besoin de remporter des victoires dans nos vies. Nous devons aussi certainement grandir dans la connaissance de Christ, dans l'amour les uns pour les autres et dans la sainteté, comme les frères de l'église de Thessalonique. Mais il y a peut-être aussi d'autres choses dans lesquelles nous avons besoin de grandir. Nous devons aussi certainement regarder à ce qui peut empêcher notre marche de progrès en progrès et demander à Dieu par son Fils Jésus de nous en délivrer. Mes frères et sœurs, avons-nous déjà demandé à Dieu dans nos prières qu'il complète ce qui manque à notre foi ? Est-ce que nous demandons souvent à Dieu, nous demandons souvent à Dieu. Dans nos prières, parfois nous passons nos prières à demander à Dieu. Mais est-ce que nous cherchons vraiment à grandir dans sa connaissance, dans la connaissance de sa parole, dans l'amour et dans la sainteté ? Demandons-nous à Dieu dans nos prières de nous aider à abandonner certaines choses que nous savons être un obstacle à notre vie et à notre foi ? Est-ce que nous demandons à Dieu aussi qu'il identifie ces choses-là ? Parce que nous pouvons très bien avoir dans nos vies des choses qui prennent une place importante, mais que nous ne savons pas qu'elles restent un obstacle dans notre vie chrétienne. Eh bien, nous pouvons demander à Dieu qu'il identifie cela et qu'il nous aide à les abandonner, si cela, bien évidemment, représente un obstacle à notre marche avec notre marche au Seigneur. Il est assez aisé de regarder les victoires que Dieu a accomplies dans nos vies. Il est plus difficile de voir et d'accepter celles qu'il a besoin encore d'accomplir. Et Paul nous encourage ici dans cette lettre, je pense, à marcher de progrès en progrès. Et au travers de ce passage, Paul nous invite à ne pas regarder que dans un sens, mais à rester vigilant de toutes les manières. Si vous oubliez là où vous avez besoin de grandir, le diable se fera un plaisir d'accentuer vos failles. Il se fera un plaisir d'accentuer vos obstacles, de les rendre plus grands, plus profonds, plus solides, pour vous ébranler. Je crois que nous avons besoin constamment de garder à l'esprit que Dieu veut compléter notre foi. Et je crois que cela est aussi valable pour l'Église en général. Nous devons toujours avoir ce souci de compléter ce qui peut manquer à l'Église. De la même manière, nous pouvons considérer toutes les bénédictions que Dieu a fait pour notre Église. Notre Église peut être aussi un moteur pour les autres Églises, être un modèle pour les autres. Mais nous pouvons aussi oublier parfois de regarder les choses que nous devons abandonner peut-être, les identifier. Ce qui nous manque aussi dans notre Église pour progresser dans la marche avec le Seigneur. Il est donc important que ce soit pour chacun d'un nous individuellement ou pour l'Église de veiller et de prier afin de demander à Dieu de compléter ce qui nous manque dans la vérité. Est-ce que nous avons déjà prié, je le redis, pour demander à Dieu qu'il complète ce qui nous manque? Alors je voudrais terminer par ces paroles de l'apôtre Paul, encore une fois, qui doivent nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Et ces paroles de Paul, ce sont les paroles qu'il donne à la fin de sa lettre, dans les derniers versets de sa lettre. Vous savez que Paul, dans ses lettres, donne souvent des recommandations à la fin de ses lettres. Et là, en restant dans la substance de tout ce qu'il a dit, Paul nous dit, au chapitre 5, du verset 17 à 24, « Et retenez ces paroles. Mes frères, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les messages qu'il inspire. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Si vous demandez à Jésus d'agir dans vos vies, il agira et il accomplira tout cela. C'est une promesse de Dieu dans sa parole. Amen.